DW.
Que se passe-t-il au Venezuela? Qui est ce Juan Guaido?
Alors, c'est une figure de l'opposition à Maduro. C'est une figure, on peut dire, montante, puisqu'il est jeune, il a 35 ans. Mais ce n'est pas un nouveau venu non plus, puisque c'est été un des fondateurs de Volonté Populaire, le parti de la droite, on peut dire, dure, opposant à Maduro.
Et comment se fait-il qu'il ait obtenu si rapidement des soutiens aussi massifs que celui des États-Unis, mais aussi de 9 pays du groupe de Lima, et aussi de l'Union européenne, au moins par la voie de la France et de l'Allemagne ?
Il représente des forces politiques qui sont soutenues très très activement par ce qu'on a appelé le groupe de Lima. Donc en gros, c'est les gouvernements de droite en Amérique latine, plus le Canada et les États-Unis. C'est un peu l'option qui est mise en avant depuis maintenant 2-3 ans à nouveau par donc les pays hostiles à Maduro et par au niveau interne par la droite la plus radicale. Il incarne une force beaucoup plus de rupture qui appelle y compris au putsch, au soutien, il soutient les options militaires des États-Unis. Et donc c'est ces options-là qui désormais sont, on le voit en poupe au sein de toute la droite continentale.
Donc est-ce qu'on peut dire que Juan Guaido est soutenu par les investisseurs étrangers, les grandes puissances qui ont des intérêts économiques?
Alors une partie d'entre elles, notamment tous les pays et les forces économiques alliées avec les États-Unis, puisque c'est vrai qu'il y a au Venezuela aussi une forte présence des capitaux chinois et russes, qui eux sont vraiment du côté de Maduro, et c'est pour cette raison que la Chine et la Russie dénoncent très très fortement cette annonce d'un gouvernement parallèle, de facto, qui serait illégitime car non issu des urnes.
Et Nicolas Maduro a obtenu aussi le soutien de l'armée. Est-ce que c'est un soutien solide et est-ce que c'est un soutien dont on a besoin pour être président du Venezuela ?
Alors c'est une force essentielle pour le gouvernement Maduro, dans un contexte vraiment d'effondrement total de l'économie, plus de 2 millions de personnes qui ont fui le pays. Les forces armées bolivariennes sont le pilier aujourd'hui du pouvoir et du gouvernement. Et elles ont montré qu'elles étaient fidèles, très très majoritairement fidèles à Maduro, puisqu'il y a quelques jours il y a eu un soulèvement de la police militaire, plusieurs dizaines de membres de la police militaire, et les forces armées ont montré qu'elles étaient prêtes à maîtriser le soulèvement et à le condamner immédiatement.
Et est-ce que l'armée a aussi des intérêts dans l'économie du pays ?
L'armée est devenue un acteur économique vraiment important, notamment dans tout ce qui est la frange de l'Orénoque, là où il y a eu concession sur concession à des grandes multinationales, étrangères, notamment chinoises, mais pas seulement, de nombreux pays. Et il y a un conglomérat qui est sous contrôle de l'armée dans cette zone économique d'extraction minière, pétrolière. Donc l'armée est non seulement un garant, disons, de la constitution, mais aussi du pouvoir, et en même temps un acteur économique qui est lié à l'orientation économique du gouvernement.
Et qu'en est-il de la population du Venezuela ? Parce qu'on parle de graves pénuries alimentaires, de médicaments, d'une hyperinflation qui frise les 10 millions de pourcents pour 2019. Est-ce qu'il n'y a pas d'alternative pour les Vénézuéliens ils sont obligés de choisir leur camp entre Maduro et Guaido ?
Disons que le drame actuel, c'est exactement ça, c'est l'absence d'alternative démocratique, émancipatrice dans un tel chaos. Le gouvernement Maduro, effectivement, est dans une dérive depuis un certain nombre d'années maintenant, une dérive autoritaire, une très mauvaise gestion économique, même un effondrement, on peut dire. Mais en face, les forces aujourd'hui de Volonté Populaire, de Guaido, qui sont en train de promouvoir un putsch avec l'appui de Trump, sont absolument pas une alternative politique qui apparaît comme une solution à la crise. Donc on voit des forces populaires, des classes populaires qui sont un peu entre le marteau et l'enclume, et sans perspective très claire.
Ce qui explique peut-être aussi les fuites massives d'ailleurs à l'étranger, l'émigration.
Oui, il y a certains sociologues qui disent que les Vénézuéliens sont en train de voter avec leurs pieds, c'est-à-dire ils partent du pays. Et donc c'est une fuite finalement face à la crise. Et en même temps, il faut bien voir qu'au Venezuela, il y a un fort sentiment national populaire et de rejet à tout ce qui pourrait ressembler à un interventionnisme extérieur, à un impérialisme qui est dénoncé par Maduro. Et donc en ce sens-là, il y a un très fort rejet de tout ce qui pourrait ressembler à des manœuvres des États-Unis pour de nouveau interférer dans la politique nationale.
D'ailleurs, les hommes en uniforme qui ont tenté une prise du pouvoir le 21 se réclamaient de Bolivar.
Oui, c'est ça. En fait, il y a une revendication très forte, nationaliste même, de la figure de Bolivar de tous les côtés. Et en ce sens, les déclarations de Trump pour soutenir ce gouvernement parallèle, ça pourrait aussi ça jette le discrédit sur la légitimité de Guaido et du président de l'Assemblée nationale dans ce cas-là.
Oui, qui apparaît un peu comme piloté par l'étranger parce que ça semble quand même bien organisé. Là, tout s'accélère très très vite.
Ah oui, là, en plus, il y a vraiment une concordance des temps, on peut dire. Il y a eu les déclarations du vice-président états-unien Pence, où il appelait très ouvertement à une forme d'intervention au Venezuela, et quelques jours plus tard apparaît donc cette autoproclamation du gouvernement parallèle. Donc il y a vraiment un travail main dans la main entre l'administration Trump et ce secteur de l'opposition, en soulignant quand même que l'opposition est encore très divisée sur quelle stratégie employer face à Maduro, qui vient de commencer un nouveau mandat, qui a été quand même élu en mai 2018, et donc qui va réclamer sa légitimité démocratique.
Et une toute dernière question. Ces derniers jours, il y a eu des affrontements violents dans l'ensemble du pays. Quelle est la suite envisageable? Est-ce qu'on peut craindre que ça ne dégénère en véritable conflit armé éventuellement, avec des interventions d'armées étrangères?
Oui, là on est vraiment de nouveau rentré dans un cycle très très dangereux de polarisation et d'affrontement dans la rue. Il y a plusieurs morts ces derniers jours. D'autant plus que s'il y a cette volonté de gouvernement parallèle qui pourrait fournir le prétexte à créer même un territoire qui serait proclamé de ce gouvernement parallèle, éventuellement avec l'appui de la Colombie voisine et indirectement des États-Unis. Donc là, on rentrerait dans une phase peut-être de guerre civile, en tout cas d'affrontement armé beaucoup plus radical, ce qui serait absolument pas une solution à la crise. La solution à la crise devant être avant tout démocratique. Il y a certaines forces aujourd'hui, des intellectuels, qui appellent à un référendum pour essayer de remettre de la négociation et remettre au centre le peuple souverain, en fait.
Mais la partition du territoire que vous évoquez, cette possibilité, ça correspondrait à des divisions culturelles, ethniques, entre des régions ou purement politiques?
Non, il y a certains qui évoquent en disant le Trump n'a pas la possibilité en fait hein, d'envoyer des Marines au Venezuela, ce serait un vrai bourbier. Les forces armées bolivariennes sont organisées, la population rejetterait très fortement cette intervention. Donc il y a cette option hein, qui circule à la frontière colombienne, essayer de se réorganiser avec des paramilitaires, avec des forces antimadouristes, pour commencer à réclamer l'État central, en fait.
Franck Godichaud, merci beaucoup.
De rien, merci à vous.